Ici Radio Grand Ciel, notre studio de Châteaudun pour notre émission Histoire et Mémoire. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Claude, qui est un grand spécialiste de l'histoire locale, et aussi M. Boumbé, qui était professeur de lettres à notre lycée Émile Zola de Châteaudun. Et justement, aujourd'hui, nous accueillons deux passionnés d'un grand écrivain du 19e siècle, Émile Zola. Émile qui était né en 1840 à Paris, et ensuite sa prime jeunesse c'était dans le Midi où vivait sa famille, mais à 7 ans son père décède et il retrouve alors Paris où il a du mal à faire des études supérieures et il n'a pas pu devenir bachelier. Mais ensuite, son évolution a fait ce que nous connaissons de lui et nous vous donnons la parole.
Bonjour, merci. Et aujourd'hui, donc, on va parler de notre ami Émile Zola parce que nous l'aimons bien, Émile Zola, parce qu'il est venu nous rendre visite. Alors, il faut honorer nos visiteurs. Donc, en plus, si vous voulez, vous étiez donc professeur de lettres justement, dans un lycée qui porte son nom. C'est quand même quelque chose, quand même. Alors, parlez-nous un petit peu de Zola, comme vous le voyez. On va échanger là-dessus. Comment vous le voyez, vous, Émile Zola?
Alors, Émile Zola, je le vois comme un écrivain, avant tout, mais comme une personne aussi qui s'intéresse à la ville et sa société, à tous les événements qui peuvent se dérouler. Et c'est ainsi qu'il a pris l'engagement de défendre le capitaine Dreyfus, une condamnation qui paraît arbitraire à Zola. Voilà. Cela étant... Zola, c'est quelqu'un qui est très connu. Il y a beaucoup de travaux de recherche qui ont été consacrés à Zola. Je peux me permettre de dire que je fais partie de ceux qui admirent Zola, en ce sens que j'avais fait quelques travaux de recherche sur Émile Zola. Voilà.
Justement, Émile Zola, en fin de compte, c'est un écrivain, certes, mais c'est un peintre, parce que, je le dis souvent, j'aime bien citer Zola. Zola qui écrit « Je veux peindre », quand il va écrire, par exemple, pour venir pour la terre, « Je veux peindre l'amour des paysans pour la terre, la possession, la passion, tout pour elle. Son écriture comme un peintre, la bose dans la comparaison avec la mer, les vagues sous le vent » qui souffle de loin, avec des moires de vieil or courant le long du blé, des avoines bleuissant, tandis que les seigles frémissants avaient des reflets violâtres et se mariaient avec des flèches incarnats d'un vert plus noir que les trèfles ordinaires.
On reconnaît déjà les accents de Charles Péguy un siècle plus tard, parlant de la Beauce et de l'océan des blés.
Oui. Donc, ce qu'il écrit, c'est beau ce qu'il écrit, ce qu'il dit.
Oui, c'est beau, d'autant plus qu'il le dit avec son cœur. Il le dit avec ses lèvres, bien sûr, mais c'est profond ce qu'il le dit. Et la Beauce, évidemment, c'est une région que Zola aime beaucoup. Et cela se voit... à tout le mal qu'il s'est donné pour venir visiter cette région, la Beauce et les communes environnantes, à savoir Cloire, Romilly-sur-Aigre, et puis Châteaudun. Voilà, donc Zola, c'est un grand écrivain, c'est un humaniste, c'est aussi quelqu'un qui défend des causes défendables, pour ne pas parler de capitaine Dreyfus.
Oui, mais justement, Zola avait cette particularité, c'est que lorsqu'il écrivait un roman, il allait sur place, il allait vivre, il allait sentir l'atmosphère, il allait rencontrer les gens. C'est ce qui est important. Ces écrivains qui ne se contentent pas de produire donc un roman, en même temps, ils vont vivre au milieu. Quand il a écrit Germinal, il est allé voir les mineurs. Quand il a vu, par exemple, Le Ventre de Paris, il est né à côté des Halles. Donc, tous ces romans, quand il parle, par exemple, de la bête humaine, le train passe au bout de sa propriété à Médan. Donc, le train l'inspire. Donc, à chaque fois, Zola, c'est quelqu'un qui ne récite pas quelque chose. Il va le prendre, il va s'en emparer. Et c'est quelque chose... Comment vous réussissez à faire passer, vous, à des jeunes gens, justement, cet amour de ce qu'il veut écrire à vos élèves? Comment vous arrivez à le faire passer?
Eh bien, il y a une pédagogie, il y a la didactique pour chaque matière. Il en est de même pour la littérature. Mais il faut aussi donner envie à ses élèves... de suivre avec beaucoup d'attention, je dirais même parfois avec beaucoup de passion. Et c'est aussi la passion, l'amour d'étudier un auteur, c'est aussi une question d'admiration. Quand on admire un auteur, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, eh bien, on l'étudie avec beaucoup d'envie. On a toujours envie de voir d'abord qui il est, comment il a fait pour arriver à ce point culminant de la littérature. Alors, tout à l'heure, vous aviez parlé de Zola, de sa manière de procéder dans son écriture. Mais il faut savoir aussi que Zola, c'est le chef de file du mouvement naturaliste au XIXe siècle. Et que le naturalisme est un mouvement littéraire qui se veut aussi scientifique. Vous voyez, il se veut aussi scientifique. C'est ce qui fait que Zola, quand il veut écrire sur un sujet, eh bien, il se déplace. Il se déplace, il mène des enquêtes. Pourquoi? Parce que la théorie du naturalisme est fondée sur le principe du lieu, de l'influence du milieu et de l'hérédité. Si vous ne vous déplacez pas, vous ne pouvez pas parler de ce qui... n'existe pas, ce que vous ne voyez pas vous sera amené à prendre des idées ici et là, alors qu'un naturaliste, c'est celui qui travaille sur le terrain. Voilà.
On peut dire que c'est la recherche du réel, de la vérité, et c'est dans cela d'ailleurs que, pour l'affaire Dreyfus, il a voulu rechercher la vérité.
Oui.
Il recherche toujours Zola. La vérité, justement, quelquefois, il va faire mal. Parce que quand on dit la vérité, quelquefois, on fait mal. Et on fait mal à des gens. Il y a des gens qui prennent mal ce qu'on leur dit. Parce que Zola, quand il va écrire, donc notamment La Terre, il va s'attirer les foudres du curé de Cloyes, l'abbé Péchaud, qui dit « Un auteur pornographique est venu salir nos paysans ». En réalité, c'est pas... son intention, il n'est pas venu les salir. Il est venu montrer les difficultés de vie de ces gens au XIXe siècle, vers la fin du XIXe siècle. Dans ces campagnes, dans ces, dans ces petites cultures où les gens vivotaient, ils ne vivaient pas, ils vivotaient, ils vivaient tout juste, encore appelons ça vivre, tout juste de leur travail. Et donc il a été au fond des choses, et en allant au fond de ses tripes, évidemment, il a fait jaillir des choses qui peuvent choquer, quoi.
Oui, il peut faire jaillir des choses qui peuvent choquer, mais on peut aussi comprendre que Zola a eu une vie assez difficile. Il a eu une vie assez difficile en tant qu'élève, en tant que quelqu'un qui n'est pas, qui n'a pas ses origines ici, vous voyez ? Et ça, c'est quelque chose qui l'a marqué. C'est quelque chose qui l'a marqué. Et combien de fois il y a ses collègues, ses confrères, ses homologues écrivains qui lui disent ouvertement qu'il n'est pas chez lui. Vous voyez, il n'est pas chez lui.
Oui, parce que il faut savoir que Zola... On dit qu'il a débuté chez Hachette. Mais il a débuté chez Hachette au colis, à faire des colis. Et après, il a fait des étiquettes. Il a continué comme cela. Mais donc, Zola, à l'origine, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la méritocratie, oui. On peut dire. Il est parti du bas pour devenir le grand bonhomme qu'il était, quoi.
Oui, c'est le travail.
Le travail.
Oui, c'est le travail. Il a bien dit d'ailleurs, pas un jour sans une ligne. Voilà. Donc, ce n'est pas le travail dans un certain désordre, mais c'est un travail organisé, c'est un travail régulier, voilà, que Zola faisait. Et c'est un conseil aussi qu'il donne.
Mais c'est vrai que quand on regarde les Rougon-Macquart de Zola,
oui.
En fin de compte, c'est un organigramme extraordinaire qu'il a construit.
Oui.
Il a construit une famille avec un organigramme, et en rassemblant toutes ces pièces du puzzle, il a fait une œuvre qui est comparable à la Comédie humaine de Balzac.
Oui.
Peut-être avec une plume un peu plus acide, peut-être que Balzac. Balzac a utilisé davantage de plein et de délié, disons. Alors que Zola, son écriture est un peu plus, disons, cassante.
Oui, il est cassant parce que, tout simplement, Zola veut dire la vérité. Alors, il s'est rendu compte que garder quelque chose en soi-même, c'est pas une solution. Il faut dire... ce qu'on ressent, il faut faire sortir ce qu'on pense. Et c'est un principe, c'est une manière, c'est une théorie qui est, je dirais, propre à Zola et qui n'est pas appréciée des autres personnes. Voilà. Zola n'a rien à perdre. Il a tout vu dans la vie. D'accord ? Il a tout vu dans la vie. Ce qui fait que son écriture est tranchante parfois. Parce que si ce n'est pas tranchant, si vous n'avez pas un certain courage, vous ne pouvez pas défendre quelqu'un qui a des difficultés ou quelqu'un qu'on arrête. Même si la personne est un militaire, c'est un homme de combat, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que la dureté de la vie. Eh bien, Zola veut dire la vérité. Et la vérité n'est pas toujours bonne à dire, mais il faut la dire. Donc, c'est un auteur courageux, c'est un auteur prolifique, c'est un auteur qui va tout droit où il veut aller, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Parce que il y a des gens qui... disent des choses à moitié, ça les arrange, bien sûr, mais Zola ne dit pas des choses à moitié. Vous voyez ?
Alors c'est vrai qu'il va oser toucher toutes les couches de la population, parce qu'il va notamment aller et Arrêt de Grand Ciel, on peut le dire, il a quand même été écrire La Faute de l'abbé Mouret.
Oui. Bon,
donc, il a osé, à l'époque où le clergé est puissant, il a osé mettre le doigt sur un sujet extrêmement délicat. C'était un sujet très délicat au XIXe siècle, dans une France qui était très catholique, très, très pratiquante. Il a osé aller mettre le doigt sur ce point.
Oui. Okay.
Et donc, là, évidemment, ben, là encore, il dérangeait.
Il dérange les consciences. Voilà. Il réveille. Zola réveille.
Et alors justement, donc Zola, on le disait en début d'émission, Zola, eh bien, il est venu donc une semaine de mai, de début mai, en 1886. Là. Il est parti de Médan, il est passé par Chartres, et puis une calèche avec Alexandrine. Ils sont arrivés à Châteaudun.
Oui.
À Châteaudun, ils sont allés donc à l'hôtel rue d'Angoulême. Aujourd'hui, c'est la rue Gambetta.
Oui. Okay.
Il est allé donc à l'auberge du Bon Laboureur, donc chez un hôtelier là. Et puis évidemment, il a visité un petit peu la ville, quoi.
Oui.
Et là encore, Zola dans sa grande, il est très méticuleux. Il va visiter tous les points importants de la ville. Et Monsieur Prudhomme, qui était nous avons connu nous les anciens du Noir, peut-être vous d'ailleurs aussi. Qui était le propriétaire du journal Le Patriote.
Oui.
Son père ou son grand-père avait vu Émile Zola au Café Français. Et le Café Français prend le soir une collation avec Alexandrine. Et le Café Français, c'était sur la place du 8 octobre, l'angle du Crédit Agricole aujourd'hui, là. Aujourd'hui, le Crédit Agricole fait tout l'angle de la place, en face le bar La Renaissance. Et donc, il était attablé là. Et M. Prudhomme l'a vu, donc, attablé là, prendre justement une collation. Et serait parti de là, ce que nous connaissons en Beauce. Vous savez, dans les cafés, les gens ont tendance, ce soir, quand ils ont un peu bu, à vouloir échanger quelques paroles un peu fortes, qui dépassent souvent leur pensée parce que l'alcool est dans. Et il y avait cette fameuse phrase qui disait, alors, c'est un pléonasme, mais sors dehors si t'es pas un feignant, quoi, pour aller se mettre deux coups de poing dans la figure, et puis ça s'arrêtait là. C'était pas une époque où on sortait le Kalachnikov ou le couteau. On se contentait de quelques coups de poing, puis l'affaire était entendue. Et ça, Zola l'a bien noté.
Oui.
Donc,
oui.
Il a fallu quand même qu'il soit très près des scènes pour écrire ça.
Oui, il faut être très proche des gens qu'on veut, dont on veut parler, des gens qu'on veut éduquer, des gens qu'on veut encourager. Hein. On ne peut pas parler à quelqu'un qu'on aime bien, on ne peut pas donner des leçons à quelqu'un qu'on aime bien aussi, à distance, vous voyez. Et vous parlez des paysans. Eh bien, quand il était arrivé à Châteaudun, eh bien, puisqu'il veut parler des paysans, eh bien, dans un café, il y avait deux cafés quand il était arrivé. Eh bien, dans un des cafés, il y a un paysan qui se prenait pour Dieu. Voilà. Il hurlait. Il ne laisse pas les autres parler. Il coupe la parole à tout le monde. Et le propriétaire qui a besoin de tout le monde, parce qu'il veut faire aussi des chiffres, comme on l'a dit aujourd'hui, eh bien, il est obligé de le mettre à la porte. Voilà. Et ça, Zola en est conscient. Il en est conscient. On ne peut pas empêcher les autres de vivre. Voilà ce qu'on peut tirer de cette observation.
Oui, et puis je vous dis, donc, il a très bien observé, par exemple, dans le dans son relevé de notes, donc qui a été repris par Henri Mitterrand,
oui,
dans les carnets d'enquête, hein, il note justement, avec justesse, que l'église du Chandé a été incendiée. Il a dit, il n'en reste plus que la façade.
Oui.
Effectivement, elle a été incendiée vers 1878. Oui. Il est venu en 86 et il a mis le doigt dessus, il l'a vu. Il était là, il était à quelques centaines de mètres. Il a tout vu, tout noté.
Oui.
Il notait tout. Et lorsqu'il va dans les fermes, comme on le disait, il va visiter les petites fermes et les grosses fermes.
Oui.
Il va voir les deux. Parce que pour lui, il y a deux cultures. Et justement, il est un peu, allez, on va dire un peu prophète dans l'agriculture, parce qu'il écrit dans la terre, notamment. Il écrit que la petite culture, c'est fini.
Ouais.
Que demain, comme aux États-Unis, la grande culture, avec les engrais, avec le machinisme, va mettre à mal toutes ces petites exploitations où les gens vivaient avec une vache, quelques hectares, un cochon, par exemple, et quelques volailles, ils vivent avec ça, et ils le disent là. Ça, c'est du passé, c'est fini.
Ouais.
Et donc, il est un peu prophète. Alors, évidemment, là aussi, il dérange. Parce que aller dire à des gens que demain, ils n'existeront plus, c'est quand même embêtant.
Oui, alors, Zola s'attache beaucoup au scientisme. Vous voyez, ça tâche beaucoup au scientisme, ce qui fait que quand il s'était rendu à Lourdes pour écrire sa trilogie « Les trois villes, Lourdes, Rome et Paris », eh bien, il a fait ce qu'il a pu faire pour ne pas heurter des sensibilités. Mais toujours est-il que, à la fin, quand il a fini son livre, eh bien, son livre est taxé de scandale. Vous voyez ? Et c'est pour cela que moi, je me suis posé la question de savoir si on gagne en faisant du terrain, comme on le dit aujourd'hui, pour la plus simple raison que même si vous écrivez dans le champ dont vous parlez, on vous trouvera toujours, on trouvera toujours des choses qui choquent. Voilà, des choses qui choquent. Et ce qui fait que Zola, comme tous les naturalistes, procède par une démarche sur le terrain, que ce soit pour écrire la terre ou que ce soit pour écrire la trilogie des trois villes, eh bien, il faut aller au contact.
Hein ? Et justement, il va mettre le doigt sur des, oui, sur des points de société qui sont extrêmement prégnants. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand les personnes deviennent âgées, mm-hmm, on les met dans les EHPAD, n'est-ce pas ?
Oui.
Zola, et même qu'encore au cours du XXe siècle, souvent les personnes âgées tournaient chez les enfants. Ils allaient passer quelque temps chez chacun des enfants. Ils tournaient. Et Zola, ça va le noter, notamment avec le père Fouan,
oui,
dans son roman La Terre.
Oui.
Et moi, j'ai bien connu, j'ai un ancêtre dans les années 1800 qui n'a pas voulu aller chez une de ses filles. Okay. Et on a retrouvé les sabots sur la margelle du puits parce qu'il ne voulait pas y aller, se jeter dans le puits. Donc tous ces phénomènes-là, à travers son roman La Terre, il souligne les difficultés que les enfants quelquefois avait pour accueillir le parent, et puis bon, quelquefois dans le roman d'Émile Zola, ça se termine extrêmement terrible, parce,
ouais,
qu'on va brûler le père Fouan.
Oui.
Mais l'affaire du père Fouan n'est pas une invention de Zola, parce qu'en 1886, mmh, au mois de juillet 86, ce drame va avoir lieu en Loir-et-Cher,
oui,
hein, à côté de Saint-Viâtre. Je suis allé sur place, à côté de Saint-Viâtre, et on va brûler la mer Lebon. On, oui, va brûler la mer Lebon. Donc ça va être horrible, on va aller acheter l'alcool chez l'épicier du pays, etc. C'est de sa faute si tout va mal. Un peu de sorcellerie encore dans ces couches un peu ignorantes de notre population du 19e siècle. Okay. On va, pour se défaire du mal, on va brûler cette personne. Alors évidemment, c'est horrible, évidemment, mais on croyait la sorcellerie au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, dans cette population qui n'était pas encore beaucoup éduquée, Jules Ferry n'était pas passé par là, on était... Donc c'était très difficile. C'est venu très lentement quand même dans nos campagnes reculées. Donc, quand on voit cela, là aussi on peut dire Zola exagérait. Non, il n'a pas exagéré. Il a su la faire jusqu'au bout parce que il l'a écrit en 1886. En janvier 1887, le Sylvain Thomas et la journée vont être guillotinée à Romorantin. Elle sera la dernière femme guillotinée en public à Romorantin. Okay. Donc la dernière, il n'y en a plus eu après. Après, ça se faisait plus discrètement. Mais donc Zola va suivre l'affaire jusqu'au bout et il va publier son livre en 1887.
Oui.
Donc à partir de ce moment-là, il a vraiment collé à la réalité et à l'actualité. C'est fabuleux d'être aussi près des choses.
Oui, il est collé à la réalité, mais comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Ou encore, il est allé sur le terrain quand il a voulu écrire sa terre. Il a côtoyé du monde. Mais je pense que parler d'une personne, discuter avec la personne, pour moi, ce n'est pas uniquement pour relever ses défauts. Il faut qu'il y ait quelque part une éducation, quelque part des propos qui peuvent édifier la personne. Or, Zola, à tort ou à raison, n'apprécie pas trop les impressions.
On pourrait dire, pour conclure, un peu de bienveillance.
Oui, un peu de bienveillance. Oui, ça fait pas de mal. Parce que, il a reproché à Balzac en ce qui concerne la paysannerie. Balzac n'est pas allé près des paysans, il ne connaît rien à la paysannerie. Lui, il va montrer ce que c'est que le paysan. Eh bien, montrer ce que c'est que le paysan. Les paysans, ce sont des gens qui travaillent durement, d'accord ? Même si de temps en temps, quand on les rencontre dans un café, comme il le dit, ils ont un comportement qui est déplacé. Mais il y a une focalisation sur le mauvais côté des paysans. Et Zola ne cherche pas à comprendre quand on n'a pas aimé ce qu'il a écrit dans La Terre. Eh bien, il faut aussi qu'ils comprennent que chez une personne, il y a des bons et des mauvais côtés.
Et voilà. Donc Zola, c'est un peu un moraliste aussi.
Oui, il est moraliste.
All some folks I used to know used to smile and say hello. Spin the world and turn the page, entertaining from the stage. But Father Time forever true loves its own, and me and you disappear just like the sun when the day is done. The world is falling down, hold my hand. It's a lonely sound.